Africa numéro 1.
Tout feu, tout foot, l'émission 100% foot, présentée par Hakim Djellouat sur Africa numéro 1.
Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir à toute l'équipe de Tout feu, tout foot. Merci à la réalisation Hélène Visio qui est avec nous ce soir, donc pour ce lundi 2 avril 2018. On ne chôme pas, c'est un jour férié mais on travaille. Il est 20h19 à Paris, l'heure de votre émission sportive. C'est l'unique sur la radio africaine, bien sûr, qui parle de sport d'abord et de football ensuite. Merci de votre fidélité, on est heureux de vous retrouver sur le 107.5 FM du côté de la région Île-de-France. Pour nous écrire, rien de plus simple, et nous partager vos messages et vos questions, une seule adresse sur Facebook, page Tout Feu Tout Foot, via les réseaux sociaux aussi, sur Twitter, n'hésitez pas à réagir. Pour nous écouter, c'est simple, cliquez sur www.africa1.com grâce au site internet. Un seul numéro pour nous contacter, nous téléphoner depuis la France pour réagir sur l'actualité du sport et du football africain et européen, 01 55 08 57 00. Depuis l'international, l'Afrique, les États-Unis ou bien l'Asie, 00 33 1 55 07 58 00. On envoie un coucou chaleureux à tous ceux qui nous écoutent en France, en Europe, aux États-Unis, en Asie, un peu partout dans le monde, en Afrique, partout aussi. Même les enfants en ce lundi férié nous écoutent. Un coucou spécial à Moïse, fan de football et de sport. On te fait un coucou Moïse. On envoie aussi le salut à Noah, Isaac, à leurs parents Joyce, Nasser qui nous écoutent chaque lundi même heure à partir de 20h15. Et à tous les auditrices, toutes les auditrices, tous les auditeurs qui nous écoutent. Un coucou spécial aussi à Jonathan, Daniela, Louisa qui nous suivent depuis l'Amérique latine. Autour de moi sur ce plateau pour commenter l'actualité et l'analyser du football africain, Willy dort que nous.
Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir Hélène, bonsoir Chris, bonsoir Kim et bonsoir les auditeurs et les auditrices.
Un coucou à Christian Chango, comment elle va Lynn ?
Liv, très bien, merci à Kim et bonjour à toute l'équipe, bis à Hélène à la réalisation et bonjour au coach aussi qui nous écoute et à tous nos auditeurs. Ah oui, et aussi j'en profite pour passer un bonjour à mon camarade Adam, Loris et Nicolas qui sont du côté de Kyoto au Japon et qui nous écoutent actuellement. Ils m'ont envoyé un petit WhatsApp, donc je vous passe le coucou les gars.
On leur fait un coucou aussi en Asie, on l'a dit tout à l'heure, au sommaire de cette édition. On va le rappeler un petit peu d'ailleurs au sommaire de cette édition, puisque c'est le rendez-vous du football plaisir, le rendez-vous du football africain, le meilleur du football européen. C'est dans votre émission sportive Tout Feu Tout Foot. Nous reviendrons sur l'ensemble des résultats du premier tour aller des éliminatoires de la CAN des moins de 20 ans, qui se poursuivait dimanche. Le Gabon a explosé le Togo, on va en parler tout à l'heure. Le Rwanda, lui, a arraché le match nul au Kenya. Nous ferons un tour complet sur les résultats. Tout Feu Tout Foot rend hommage à Winnie Mandela qui est décédé ce lundi 2 avril des suites d'une longue maladie dans un hôpital de Johannesburg. L'ex-épouse de Nelson Mandela était âgée de 81 ans. On connaît aussi désormais, messieurs, les arbitres africains qui participeront à la Coupe du Monde de football en Russie cette année 2018. On en parlera et on fera un petit tour complet. Ensuite, nous irons du côté de l'Europe pour un voyage du côté de la Ligue 1 où Memphis Depay régale. Les Verts volent, Lille coule après son succès à Nantes. Saint-Etienne peut croire à l'Europe. Vainqueur à Caen, Montpellier s'est emparé de la 5e place. Guingamp qui réagit et qui met fin à 6 matchs de championnat sans victoire en s'imposant face à Bordeaux. En Liga avec Adama Sourabier, retour sur les résultats des rencontres qui ont eu lieu le week-end dernier. On aura le temps d'en parler puisque ça sera aussi la transition à faire avec la Ligue des Champions. On reviendra aussi sur les résultats de la première Ligue anglaise qui va voir tout simplement un super beau aussi match entre deux grands joueurs, Mohamed Salah. Le son Mohamed Salah et le joueur belge
Kevin De Bruyne.
Christian Chango, Kevin De Bruyne, un face-à-face intéressant.
Oui, ça va être un match. De toute façon, là, c'est les quarts de finale. Hein, donc, on a les 8 meilleures équipes européennes qualifiées. Donc, le PSG n'en fait pas partie. Donc, là, c'est la crème de la crème. Et on a hâte que ça commence dès demain avec, c'est vrai, ce match entre Liverpool et Manchester City. Manchester City, juste, on en reparlera tout à l'heure, qui peut être sacré champion d'Angleterre dès le week-end prochain. Et ce sera lors d'un match face au rival Manchester United.
Alors on aura le temps d'en parler avec Willy Dorkenou également. Willy Dorkenou, ça vous inspire quoi?
Oui,
ce face-à-face entre De Bruyne et, et Salah.
Oui, mais c'est un face-à-face entre deux grandes équipes déjà, entre deux grands coachs. Donc tout est grand là-bas. Dans l'équipe, il n'y a que des meilleurs joueurs dans les deux équipes. En face, il y a deux grands coachs et deux grandes équipes de football. Donc on aurait du bon football. Le football, vous savez très bien que le niveau de la Premier League, c'est autre chose.
Ouais, tout de suite, place eh bien, aux championnats africains.
Les différents championnats africains sur Africa numéro 1.
Allez, on s'installe confortablement puisque Marco Momo est avec nous depuis la RD Congo pour nous parler d'un fait d'actualité qui s'est déroulé il n'y a pas si longtemps que ça, puisque eh bien, la politique se mêle au sport, et quand la politique se mêle au sport, ça fait du grabuge et ça fait des petits soucis hein, quant au football de la RD Congo. On va en parler justement avec vous, Marco Momo, qui est avec nous depuis eh bien, la République démocratique du Congo, journaliste et correspondant pour Tout Feu Tout Foot. Pour l'équipe, comment ça va d'abord, Marco Momo?
Bonjour Hakim, merci pour l'intervention. Oui, la santé quand même, ça va.
Parfait, on va en parler justement de cette actualité qui secoue un petit peu hein, et qui fait tout le tour de l'actualité, tout le tour du pays, de la RD Congo. On le rappelle, donc pour cette information, on a le ministre des Sports de la République démocratique du Congo qui fait un petit peu de la polémique, vraisemblablement. On n'a pas encore payé Monsieur Florent Ibenge, le sélectionneur actuel de la RD Congo. Que se passe-t-il du côté de la RDC exactement?
Justement, c'est par rapport aux préparations des trois équipes nationales. D'abord, l'équipe nationale A, qui devait jouer, qui a joué un match amical face à la Tanzanie. Par rapport à la préparation, ce qui a été prévu n'est pas ce qui s'est réellement passé, puisque on devait d'abord avoir un vol affrété pour cette sélection, mais à la place, c'est un vol commercial qui a été mis à la disposition de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, qui a perdu de plus par 0-2 face à la Tanzanie. Au-delà de tout ça, l'équipe 20, qui a arraché un nul de 0-0 partout face à la Tanzanie, devrait également se déplacer dans les mêmes conditions que la formation A, donc un vol affrété, ce qui n'a pas été le cas. Il y a une autre formation, c'est les U17 de la République démocratique du Congo qui devaient se préparer au Cameroun, mais jusque-là, ça tarde encore à venir pour cause la Fédération congolaise de football avait fait un état des besoins pour les ministres, $1 million américains. C'est trop pour allouer au football, alors que le pays a d'autres priorités, entre autres la construction des ponts, la construction d'écoles et la construction de tout ce que nous connaissons, hôpitaux. Et pourtant, convoqué par le conseiller du président en charge de la bonne gouvernance, Luzolo Bambi, la semaine dernière, le président de la Fédération congolaise de football a apporté des preuves.
Constant Omari.
Constant Omari, il n'est pas question de $1 million, mais une somme qui avoisinerait les 500 à 600 000 dollars américains. Donc, il y a une contradiction entre ce que le ministre des Sports a véhiculé comme message et ce que la Fédération congolaise de football, moyennant des pièces justificatives, a demandé auprès du ministère pour faire déplacer les deux équipes et éventuellement les préparations de nos sélections nationales.
Alors, c'est dire, est-ce qu'ils sont avérés, est-ce qu'ils sont vérifiés? On sait que pour le moment, Florent Ibenge n'a pas encore eu l'opportunité de s'exprimer, il n'a pas eu encore l'occasion, on lui a déconseillé, mais ça ne saurait tarder pour pouvoir justement avoir sa version des choses. Willy Dorkenou, oui. Qu'en pensez-vous?
Je pense de quoi? Parce que tous les... Par rapport à cette déclaration, il y a un problème aussi en Afrique, c'est-à-dire que la politique aime tourner autour du football parce que c'est le seul truc qui intéresse les gens, parce qu'il n'y a pas grand-chose en Afrique pour la jeunesse et toute la population d'ailleurs. Donc ils sont focalisés sur le football. Donc du coup, la politique essaie de s'ingérer dans le football, ce qu'ils ne doivent pas faire, mais aller dire qu'il y a des ponts à construire et ne pas allouer des fonds pour le football. Je voulais dire à ce ministre-là que dans tous les pays où on joue au football, il y a des ponts, il y a des routes. Donc, il faut pas, c'est pas aux dépens du foot qu'on construit des ponts ni des routes.
Christian Chango, une situation comme celle-ci risquerait peut-être de freiner Florent Ibenge pour pouvoir poursuivre avec les, avec l'équipe nationale. Pour le moment, il a plutôt fait de bonnes choses. Florent Ibengué, on l'avait eu sur le plateau de Tout Feu Tout Foot il y a quelques semaines, justement pour s'exprimer quant à cette position. Ce n'était pas encore officiel, il l'avait dit. Il attendait effectivement quelques éclaircissements et pour le moment, on n'a effectivement pas encore de véritable visibilité pour lui.
Exact, et c'est ce qui est dommage dans toute cette histoire-là, c'est que ça, encore une fois, ça va être au détriment de la sélection nationale, des joueurs de l'équipe nationale, des joueurs du championnat, de tous ceux qui aiment le foot. Encore une fois, le foot est un peu pris en otage par des gens qui sont censés être en place pour aider à diriger, pour aider à ce que ça se passe au mieux de manière professionnelle, mais malheureusement, bah, c'est toujours les mêmes travers qui reviennent. Moi, la politique, ça m'intéresse. Si la politique est là pour aider à professionnaliser le football, pour aider le football à grandir, là, ça peut m'intéresser. Mais honnêtement, si c'est pour des histoires comme ça, malheureusement, c'est souvent la même. Et au final, c'est au détriment des acteurs du football. Et on peut comprendre, Florent Ibengué, il est là c'est pas parce que c'est le sélectionneur de la RDC, je l'aurais dit pour n'importe quel autre pays. Il est là depuis maintenant 4 ans au niveau de la RDC. Faut se rappeler où était le football national, où était l'équipe nationale A des Léopards du Congo. Donc, on était tout en bas. Il est revenu, il a réussi à reprofessionnaliser, à remonter le niveau, que ce soit de l'équipe A ou de l'équipe du CHAN aussi. Donc malheureusement, au lieu d'encourager ce travail-là, on se retrouve avec cette situation-là. Donc écoutez, on va attendre la suite, voir ce que ça donne. Mais c'est pas de bon augure. Et en termes de confiance envoyée au niveau des joueurs, des acteurs du football, c'est pas ce qu'il y a de mieux.
Alors Marco Momo, ça chauffe hein, entre le ministre des Sports et la FECOFA, la Fédération Congolaise de Football. Et la Fédération Congolaise donc, a accusé le ministre des Sports justement... Par rapport à ses propos, on le rappelle, hein, le ministre des Sports et Loisirs, Papi Nyong'o, d'être le responsable de gros problèmes organisationnels avant le match face à la Tanzanie, des problèmes qui ont poussé justement aussi d'autres joueurs à quitter le rassemblement. Est-ce que vous confirmez?
Oui, justement, il y a eu des très sérieux problèmes. À part ceux qui sont partis, notamment Paul-José Mpoko, il y a également Firmin Mumbele Ndombe qui a pris une distance par rapport à la sélection. Au-delà de ces faits, Chancel Mbemba a fait un message très fort via sa page Facebook. Il compte que ce genre de désordre ne puisse plus se répéter puisque la fédération avait fait entrer le bon depuis trop longtemps, le 14 février, pour un match qui devait se jouer le 27. Et il y a au préalable ce qui a été arrêté depuis le gouvernement Matata Ponyo, la prime des joueurs. Il y avait également les conditions dans lesquelles l'équipe nationale devrait se déplacer par un vol affrété. Mais avec le ministre Papi Nyong'o, il a semblé tout ignorer et pour maintenant remettre la Fédération Congolaise de Football dans des situations très compliquées. Les déplacements, ce n'est pas avec les fonds du trésor public, les déplacements du club ou de la sélection A ou encore de la formation U20, c'est avec les fonds de la Fédération Congolaise de Football Association. Aucun franc n'a été tiré du trésor public. Alors c'est ce qui a un peu énervé les membres de la Fédération Congolaise de Football, dirigé par Constant Omar Selemani, et qui a présenté des preuves par rapport à la demande de la Fédération pour les préparations des différentes sélections, puisque la RDC, au-delà de ses matchs amicaux contre la Tanzanie, devra jouer au mois de mai contre le Nigeria. C'était également en prévision de ses matchs amicaux contre les Super Eagles du Nigeria, mais malheureusement, le ministre a fait table rase de toutes ces demandes de la Fédération Congolaise de Football, ce qui énerve également, non seulement les staffs techniques, les joueurs, les publics ici en République démocratique du Congo et également les membres de la Fédération Congolaise de Football Association.
Que dit la presse du côté de la RD Congo par rapport à cette situation? On a dit qu'on en parlait beaucoup pour le moment. C'est l'actualité un petit peu qui fait mouche du côté de la RD Congo. Qu'est-ce que dit la presse? Quels sont les titres qui ont paru justement suite à cette polémique?
En tout cas, la presse s'est montrée très critique à l'égard du ministre de Sport, Papi Nyong'o, faisant ici, on nous a fait voir son parcours qui n'était pas tellement sportif que le ministre qui était là avant, Denis Kambay, avec qui nous avons remporté l'édition du CHAN 2016. On a fait un parallélisme entre les deux parcours de ces deux hommes politiques pour dire que Papi Nyang'o n'était vraiment pas un vrai sportif. Pour lui, ce qui le quitte, c'est que c'est s'occuper du Tour cycliste international de la République démocratique du Congo. C'est tout ce qu'il a fait de mieux. Et par rapport au sport, ils ont également relevé les cas du TP Mazembe Anglebert avec les primes du gouvernement qui devraient normalement être remises aux joueurs du Tout-Puissant Mazembe. Lors de la finale, le ministre avait chanté que les primes étaient remises, chose contredite par Frédéric Kitenge Kinkumba, manager du TP Mazembe. Ce n'est qu'après que le ministre s'est excusé pour donner des justifications. En tout cas, le ministre a été vivement critiqué et il n'a plus de crédit à l'égard de la presse qui s'est montré en tout cas trop sévère envers le ministre Papi Nyang'o.
On le rappelle, hein, messieurs, Florent Ibenge qui est le sélectionneur actuel de l'équipe de la RD Congo. Pour le moment, il n'a toujours pas encore été payé, si on comprend bien. Il est aussi l'actuel entraîneur de l'AS Vita Club. Mais pour le moment, au niveau de sa sélection, c'est ce problème-là qui n'a pas encore été réglé, le paiement. Et cette polémique qui intervient avec le ministre des Sports, qui pointe son nez eh bien, au sein de la Fédération congolaise de football. On le rappelle pour information, le parcours de Florent Ibenge, hein, finaliste de la Ligue des champions de la CAF en 2014, champion en 2015 du championnat de la RD Congo, vainqueur de la Super Coupe de la RDC. On le rappelle aussi, troisième lors de la Coupe d'Afrique des Nations avec les Congolais. Est-ce qu'on a entendu Florent Ibenge s'exprimer ou peut-être vouloir s'exprimer dans les prochains jours?
Oui, justement, en revenant d'abord de la Tanzanie, il s'est occupé de son équipe, l'AS Victoria Club, qui est en difficulté au niveau du championnat. Et cet après-midi, l'AS Victoria Club s'est imposé au forceps devant la formation des Monts Bleus. Victoria Club revenait d'une défaite après le retour de Jean-Florent Ibenge contre les Sa Majesté Sangabalende. Donc jusque-là, c'est un monsieur qui se concentre d'abord sur l'équipe de l'AS Victoria Club et qui doit justement jouer les tours de cadrage de la Coupe de la Confédération contre la Mancha Club du Congo Brazzaville. Donc jusque-là, Jean-Florent Ibenge ne s'est pas encore exprimé quant à son avenir par rapport à l'équipe nationale. C'est vrai, il y a des bruits qui courent ça et là, mais jusque-là, il ne s'est pas encore exprimé quant à son avenir au niveau de l'équipe nationale. Et il n'a rien promis pour cette équipe nationale. Au moins, en conférence de presse, d'avant-match contre la formation de Montbleu, il a seulement parlé de son équipe de la CV Club. Il a reconnu les problèmes offensifs qui connaissent cette formation de la capitale congolaise.
Christian Chango, vous leader que nous, ça serait dommageable de voir partir Florent Ibenge de cette sélection de la RD Congo.
Oui, on a vu et tout le travail que ce monsieur a fait pour le football congolais. On a vu là où était l'équipe nationale du Congo avant l'arrivée de monsieur Ibenge. Et c'est triste de ne pas l'encourager à continuer. Il n'est pas payé. On paye les vieux touristes qui traînent sur le continent, mais qui sont incompétents. Je vais le dire toujours. J'en ai parlé par rapport à monsieur Pout qu'on a pris en Guinée. Il est venu, il a été l'objet d'une défaite historique, comme l'avait fait monsieur Fernandez. C'est-à-dire que la Guinée s'est fait battre par la Mauritanie par 2-0. Donc, c'est triste pour monsieur Ibenge, c'est triste pour le Congo aussi.
Ouais.
Ce qui est sûr, c'est que les gens qui dirigent les pays n'ont aucune idée sur le foot et l'importance du sport dans nos pays. Mm-hmm. Donc, qu'est-ce que je voulais que je dise? C'est une tristesse qui me traverse là, et tout le corps.
Christian?
Oui, Hakim, comme je vous le disais avant dans ma précédente intervention, moi, c'est surtout le fait que...
Est-ce que c'est dommageable de voir partir un sélectionneur comme Florent qu'on a eu sur ce plateau pendant une heure où il s'était exprimé justement quant au football congolais, où il disait que le football congolais, eh bien pour lui, c'était un beau football qui méritait sa place au niveau international, et de voir là des problèmes comme ces polémiques posées par le ministre des Sports de la RD Congo, est-ce que ça serait pas dommageable de voir partir un sélectionneur comme Florent, même s'il n'est pas encore parti, hein?
Ah, bien sûr, pour l'instant il est toujours en poste, mais on sait très bien, on est informé quand même, on était déjà au fait des soucis qu'il y avait au niveau des versements, des paiements pour le sélectionneur et pour son staff. Donc oui, moi je vous le disais, et franchement c'est con, mais s'il s'en va, bah tant pis, ce sera un mal, mais voilà ce qu'on arrivera, parce que là c'est parce que les gens qui dirigent le football et ouais. tous ceux qui sont autour n'arrivent pas à s'entendre, à bien faire leur boulot, alors que sur le terrain, le boulot est bien fait. Et on va perdre des gens de qualité comme ça, mais c'est normal. Quand la compétence règne, on n'a pas envie de bosser dans ces conditions-là. Ouais. Et malheureusement, écoutez, on va se retrouver à ce que peut-être qu'il va quitter le navire. Et voilà, et donc il va falloir tout reconstruire, des joueurs qui vont plus vouloir venir, alors qu'on était quand même sur un climat stable où ça allait de mieux en mieux pour la sélection. On regarde au classement FIFA local. Où ça va mieux, avec un sélectionneur local qui a fait ses preuves, qui a des résultats et qui a l'adhésion surtout des joueurs autour de lui et autour du projet qui met en place et du public. Donc ouais. Malheureusement, écoutez, si les gens qui sont censés être compétents n'arrivent pas à s'entendre, à bien faire leur boulot, et ben on va se retrouver dans la panade et il va falloir tout reconstruire, et ce sera dommageable pour les footballeurs, pour le peuple congolais, pour tous ceux qui aiment le football africain.
Papi Nyong'o, si vous nous écoutez, monsieur le ministre des Sports de la RD Congo, laissez travailler tranquillement Florent Ibenge et cette fédération congolaise de football, parce qu'elle fait des belles choses. Donc si vous nous entendez, le message est passé. Djomo Debeng pour s'exprimer quant à ce sujet. Djomo Debeng, bonsoir. Est-ce que le ministre des Sports et la politique a le droit justement de pointer son nez sur une fédération hein, de football qui fonctionne plutôt bien pour le moment en matière de résultats sportifs?
Oui, merci Chokri, merci au
Hakim,
doyen
Hakim.
Willy, merci Hakim.
C'est pas grave.
Merci au doyen Willy.
Bonsoir.
Et voilà, moi je vous dis que c'est écœurant, quoi. C'est écœurant et c'est comme ça partout, hein. Vous savez, les politiques ont tous...
Pouvez-vous baisser la musique derrière vous, s'il vous plaît, Djomo Debeng, merci.
Vous diminuez un peu la musique. C'est dommage, hein. Je disais bien que c'est très très dommage, quoi, pour ces gens-là. Parce qu'ils mettent toujours, voilà quoi, ils ne savent pas où mettre le nez, et quand il s'agit de mettre le nez, ils ne le mettent pas.
Mmh.
Et vu que tout va bien dans le football congolais, il faut que l'arbitre, il faut que le ministre puisse mettre la merde pour qu'on dise que c'est pas faute. Et tout ça pour des problèmes d'argent.
Mmh.
Pourquoi, comme l'a dit tout à l'heure le doyen, on prend des jardiniers, on les paye à des millions de francs CFA, et arriver autour de nos entraîneurs, non seulement on ne leur donne même pas le cadre de ce qu'on donne à ces expatriés-là, mais en plus on ne leur donne pas les moyens. C'est ça qui est malheureux dans cette affaire.
Oui.
Et bon, pour le Congo, ça arrive, pour quelqu'un qui est local, qui a emmené l'équipe à un tel niveau, après se voir récompensé comme ça, moi je vois que c'est désolant.
Ouais,
c'est
vraiment désolant. Jean-Florent Ibenge, on le rappelle, hein, qui a redonné le sourire à tout un pays, messieurs, à plein de fans. Merci Djomo Debeng de vous avoir entendu. C'est un plaisir de vous avoir écouté. Ça faisait un moment. Et vous êtes le bienvenu sur la radio africaine, Djomo. Tout comme les autres auditeurs, n'hésitez pas à nous contacter au 01 55 07 58 00. Florent Ibenge avait réussi à redonner le sourire, messieurs, à tout un peuple, notamment en Coupe d'Afrique des Nations. On se rappelle de cette troisième place, messieurs.
Oui, c'est un coach très compétent. On l'a vu avec le Vita Club qu'il a envoyé jusqu'en en finale, un mois donné. Donc, et c'est un entraîneur, un coach et national, très très intelligent comme coach. Et donc, je ne vois pas pourquoi le Congo ne veut pas reconnaître en lui une personne qui va amener le Congo très loin. On l'a vu, à chaque fois, il amène le Congo de plus en plus loin.
On le rappelle hein, aux auditrices, aux auditeurs. Au Rwanda, en 2016, Florent Ibenge s'était adjugé le championnat d'Afrique des Nations, Marco Momo. Est-ce qu'il fait toujours l'unanimité?
Bon, depuis un certain temps, Florent Ibenge est contesté par certaines personnes, certains analystes, qui le jugent par rapport à ce qu'il fait maintenant, par exemple le match amicaux, son amour indéfini avec les défaites dans les matchs amicaux. Vous allez vous rappeler de ces matchs perdus contre les Kenya, ces matchs encore perdus contre la Tanzanie. La Tanzanie minimisée comme étant une petite formation par rapport au classement FIFA, contrairement à la République démocratique du Congo, qui est dans les top 3 sur le plan africain. Il ne fait plus l'unanimité, et aussi les résultats qui ne suivent plus au niveau de son club, de l'AS Victoria Club. En tout cas, Jean-Florent Ibenge, pardon, est en train de traverser une période difficile, mais sinon, il faudrait toujours lui donner une certaine confiance.
Mm-hmm.
Hakim, j'aimerais ici vous rappeler l'histoire un peu de la sélection nationale.
Mm-hmm.
Sur le 30 dernières années, chaque fois que la RDC est arrivée dans les derniers carrés d'une compétition continentale en Afrique, mm-hmm. c'est avec un entraîneur congolais. Vous allez vous rappeler de cette épopée de 1998 avec professeur Jackie Watunda, le feu professeur Jackie Watunda. Et là, c'est Jean-Florent Ibengué qui, en 2015, est arrivé avec la République démocratique du Congo jusqu'en demi-finale, perdre contre la Côte d'Ivoire et occuper la troisième place au bout de la compétition. Mais je pense que c'est quelqu'un à qui on doit lui donner confiance. Imaginez avec le départ de Paul-José Mpoko, de Jordan Ikoko, des garçons sur qui il comptait pour ces matchs contre la Tanzanie. Même s'il faut être magicien, c'est impossible de gagner un match comme ça. Il y a eu également en amont les blessures de Luindama, Christian de Standard de Liège. Je pense que ça jouait un mauvais tour à Jean-Florent Ibengué. Et je suis en train de voir que peut-être il pourra rectifier les tirs contre le Nigeria, puisque Jean-Florent Ibengué reste quand même un grand par rapport à son passé et par rapport à ce qu'il a fait démocratique du Congo.
Merci pour cette analyse et ces précisions. Restez avec nous. Marc Omomo, on le rappelle, vous êtes journaliste et correspondant depuis la RD Congo. Vous êtes avec nous sur cette première partie d'émission dans Tout Feu Tout Foot avec Christian Chango, avec Willy Dorkenou. À la réalisation de cette émission, on le rappelle, Hélène Bizio qui est avec nous en ce lundi 2 avril 2018. C'est les résultats du premier tour aller des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. On va en parler justement avec toute l'équipe. On va décortiquer ces résultats. On va en parler. On va d'abord rappeler peut-être les résultats avec vous, Christian. Des résultats du premier tour aller qui ont eu lieu d'abord samedi.
Exact, pour le premier tour aller pour les qualifications pour la CAN U20. Donc on va donner les résultats. Botswana, Namibie 0-0. 0-0 entre les Seychelles et le Mozambique. Malawi, Swaziland également 0-0. Victoire de l'Ouganda face au Soudan du Sud 5-1. Tanzanie, RD Congo 0-0. Mauritanie a battu le Maroc 2-0. L'Algérie a battu la Tunisie 3-1. Le Gabon a battu le Togo 4-0. Kenya, Rwanda 1-0. Et Guinée-Bissau, Sierra Leone 1-0. Et il y a plusieurs équipes qui sont exemptées de premier tour, dont l'Afrique du Sud, l'Angola, le Burkina Faso, le Cameroun, le Congo-Brazzaville, la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée, l'Égypte, la Libye, le Mali, le Nigeria, le Sénégal, le Soudan et la Zambie.
Le Maroc, messieurs, qui se met en danger. Le Maroc, on va en parler tout de suite parce que ça s'est déroulé samedi. Et alors que le Maroc, du côté des seniors et du côté des juniors, bien, ça se passe plutôt pas mal. Mais là, du côté des moins de 20 ans, c'est un petit peu plus compliqué face à une bonne équipe des Morabitoun juniors. Donc c'est la Mauritanie qui s'est imposée 2-0, messieurs, face aux Marocains.
Oui, mais vous allez voir que ça fait un moment donné que je vous parlais des Morabitoun de la Mauritanie, parce que je suis très bien ce pays qui n'était pas connu pour un pays de football avant, mais qui fait beaucoup d'efforts. Moi, vous savez très bien que à chaque fois qu'un pays fait beaucoup d'efforts, beaucoup de travail dans son domaine et avance, moi, ça me fait tellement plaisir. Donc, ce score de 2-0 sur le Maroc, un grand pays actuel.
Ça ne vous étonne pas, Woody?
Ça ne m'étonne pas parce que je le suis. Parce que je ne vais pas me garder dans la tête qu'il y a des pays de football en Afrique qui vont dormir toute leur vie. Non, ils sont plus favoris. Ceux qui travaillent sont les favoris pour moi.
Christian Chango, 17e minute, l'ouverture du score pour les Morabitoun. Les petits Morabitoun qui ont réussi à marquer très tôt dans les 20 premières minutes. Ça ne vous étonne pas non plus par rapport à cette bonne équipe marocaine et cette bonne école de football marocaine. On le rappelle, le Maroc est qualifié pour la Coupe du Monde 2018. Le Maroc régulièrement présent également dans les derniers carrés des dernières compétitions continentales.
Oui, ça me surprend pas. Franchement, honnêtement, c'est compliqué puisque c'est les premiers tours comme ça. D'une, c'est difficile de pouvoir accéder et pouvoir voir les matchs dans leur intégralité. Et sur le peu que j'ai vu de la rencontre, c'était quand même équilibré. La Mauritanie, on m'aurait demandé le résultat avant le match. J'aurais pas misé sur une victoire de la Mauritanie, très honnêtement. Mais sur la rencontre, le peu que j'en ai vu, la Mauritanie a eu les occasions les plus franches. Mais c'est bien, c'est qu'on voit dans les résultats. Je vois Tanzanie RDC 0-0. Je vois, il y a plusieurs matchs nuls. Donc c'est que ça se tient. Et au niveau des jeunes, en tout cas, ça se tient. Après, il faut que ça puisse percer derrière et apporter au niveau de la sélection A. Quand je vois par exemple que la Zambie est exemple premier tour. La Zambie, c'est une sélection que je suis beaucoup chez les jeunes. Et je sais que c'est une équipe qui s'abreuve beaucoup de ces jeunes, que ce soit les U17 ou les U20. Donc c'est une compétition intéressante. Ces premiers matchs-là, c'est intéressant pour voir peut-être des potentiels futurs membres des sélections A.
Alors on le rappelle, Éthiopie-Burundi, c'est un match qui se jouera pardon, le 12 avril, oui, puisqu'il a été annulé, sûrement par les conditions du terrain. Marco Momo, votre avis sur cette rencontre entre la Mauritanie et les Morabitounes face au Lionceau de l'Atlas, 2-0 pour la Mauritanie, ça vous inspire quoi?
Moi, ça m'inspire qu'il ne faudrait jamais avoir l'excès des ailes. Hein. C'est ce qui a peut-être joué un mauvais détour à la formation du Maroc quoi, face à une équipe mauritanienne qui, même chez les seniors, ne fait pas de poids face à des grandes formations, à part peut-être cette prestation lors d'une précédente édition du CHAN. Et aujourd'hui, 2-0 quand même, c'est assez grand pour le Maroc quand on connaît très bien l'organisation du Maroc, le niveau du championnat des Botola Pro A, le niveau du championnat marocain et autant des joueurs qui évoluent sur les vieux continents qui participent à cette sélection d'âge du Maroc et aussi à tout le prestige que regorge le Maroc par rapport à cette qualification pour la Coupe du Monde, les stades, les infrastructures par rapport plutôt à la Mauritanie. Je me dis qu'il y a des fois à être inquiet, comme le disait tout à l'heure Christian. Si on me demandait de parier sur ces matchs avant, c'est que je devais directement, sans réfléchir, penser à une victoire marocaine, même d'un but à zéro, comme c'est à l'extérieur. Et là, il faudra se déployer vraiment lors de la manche retour pour mettre 3-0. Et je pense que ça ne sera pas facile pour le Maroc.
Et ça ne sera pas si simple que cela. L'autre rencontre qui était intéressante à suivre, c'est l'Ouganda qui fait fort hein, face au Soudan du Sud, face à une grande nation du football africain et du football international. C'est l'Ouganda qui remporte ce beau match. On le rappelle, il y a eu 5 matchs nuls avec le Botswana et la Namibie, comme vous l'avez annoncé Christian, 0-0, Seychelles, Mozambique 0-0, Malawi, Swaziland 0-0, Tanzanie, RD Congo, la Tanzanie qui a accroché la RD Congo. Un petit mot peut-être sur cette rencontre avant de vous donner la parole, Marco Momo, peut-être Willy Dorkenou sur ce match. Tanzanie, RD Congo, tenu en échec par la RD Congo qui était tenue en échec par la Tanzanie.
Oui, mais souvent, on a vu que les pays qui sont dans la même zone, et ça devient un derby. Donc, ce sont des matchs toujours difficiles, comme le Togo qui joue le Ghana, le Togo qui joue le Bénin. C'est toujours difficile. Donc, ça se comprend. Les derbies, il faut s'arracher pour les gagner.
Mmh. Alors, on le rappelle aussi, Marco Momo, on a aussi cette belle rencontre hein, qui a eu lieu entre le Kenya et le Rwanda, un partout. Christian, RDC déjà, qui est tenu en échec, eh bien chez la Tanzanie, c'est un score difficile, 0-0.
C'est un score difficile, oui. Écoutez, c'est surtout aller gagner à l'extérieur, c'est jamais évident, surtout pour les sélections de jeunes. Donc, c'est plutôt mettre en avant la Tanzanie qui a fait un bon résultat à domicile, mais tout est jouable encore pour le match retour pour la RD Congo, en espérant que nos jeunes joueurs puissent se préparer dans de bonnes conditions pour amorcer ce match retour de la meilleure manière possible.
Et essayer de les aider aussi, les joueurs, et en arrêtant de construire des ponts et des écoles pour les aider un peu.
C'est ça.
Ouais, probablement. Alors, on a ce match entre l'Algérie et la Tunisie, où leader que nous, sans revenir effectivement sur la politique, on va s'intéresser au football. Algérie, Tunisie, l'Algérie qui remporte ce match 3-1, c'est une bonne chose ça pour les Algériens, les Nord-Africains. D'autant plus c'était un très très beau match du Maghreb.
Oui, c'est ce que j'avais dit, c'est dans la même zone, c'est toujours dur. Donc 3-0 sur la Tunisie, c'est un très très bon score, et l'Algérie n'est plus à présenter. C'est un grand pays dans cette zone. Donc moi je vois que le score est logique.
Un score logique pour vous, Willy, Christian Chango, est-ce que c'est la même chose pour vous? Est-ce que c'est un score plutôt logique pour vous, l'Algérie-Tunisie, 3-1 pour l'Algérie?
En tout cas, c'est un des matchs dans ceux que j'ai pu voir ou voir des résumés, c'est un des matchs les plus plaisants. Il y a nos niveaux en termes de qualité technique, au niveau des joueurs, c'était vraiment un des matchs les plus plaisants à voir. Et bon, après le football maghrébin et surtout le football algérien en particulier n'est pas à présenter, et c'était un derby que l'Algérie a gagné. Maintenant, match retour du côté de la Tunisie, à voir comment ça va se passer. si on a Salim tout à l'heure, il pourra peut-être nous en parler. Mais en tout cas, ouais, c'est une belle victoire de l'Algérie, puisque bon, la sélection A, il y a quelques soucis quand même ces derniers temps. Donc c'est un peu une bouffée d'oxygène pour tous les fans du football
algérien. Pour les jeunes et les fans du football algérien qui ne partiront pas au Mondial 2018. On le rappelle, l'Algérie qui a tenu son rang dominant la Tunisie 3-1. C'était samedi dernier dans le cadre du premier tour d'aller des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. C'est sur Africa numéro 1, c'est dans Tout Feu Tout Foot. L'actualité du football africain, bien lancé hein, par début de Zorgan, 12e sur penalty, puis Zerouki à la 39e. Les Algériens ont concédé une réduction du score largement évitable sur un dribble de leur gardien qui a profité à Hamza, 41e. Les locaux ensuite ont bénéficié d'un but contre son camp des adversaires, 52e, ce qui leur permettra de se rendre à Tunis avec un avantage sérieux de 2 buts dans 3 semaines, mais ça ne sera pas effectivement un déplacement easy, facile pour les Algériens, comme l'a souligné Christian et Willy. Marco Momo, Algérie-Tunisie, 3-1 pour l'Algérie. Est-ce que c'est un bon score pour les Algériens?
Je pense qu'ils se sont déjà mis dans une position confortable avant de jouer contre la Tunisie, mais les 1 but marqué à l'extérieur, les buts marqués plutôt à l'extérieur par les Aigles de Carthage va peut-être encore peser dans la balance, puisqu'il suffira des 2-0 pour que la Tunisie passe au prochain tour. Je pense qu'il devrait éviter ces buts encaissés à domicile, mais le gardien a fait cette erreur qui va sûrement peut-être peser dans la balance lors de la manche retour et qui va peut-être coûter même la qualification au prochain tour pour l'équipe algérienne.
Pour l'équipe algérienne, on rappelle les scores dimanche, Gabon, Togo, 4-0 pour le Gabon, ça va faire plaisir à Phil de Montagnard.
Oui, ça va faire plaisir à Phil, moi ça ne me fait pas du tout plaisir, et ni rigoler, parce que Gabon 4-0 pour une équipe togolaise, c'est comme je vous dis, il faut travailler.
Il y a un contraste, hein, on le rappelle, avec la sélection A du Togo qui a fait de bons résultats il n'y a pas si longtemps.
C'est ce que j'avais dit l'autre fois, vous n'avez pas bien écouté. J'ai dit que les A, ils font des efforts, ils sont courageux, mais ce courage-là ne peut pas remplacer le travail fait au niveau de ce sport. Il faut beaucoup de boulot.
Christian?
Oui, c'est moi surtout ce qui m'inquiète dans ce résultat. Bon, que le Togo ait perdu, c'est pas un souci, mais là, il y a dans quelques semaines, on nous avait donné l'information et qu'il y a le tournoi de Toulon là qui va se détourner là, le tournoi des espoirs, et le Togo fait partie de nos représentants, et notre seul représentant d'ailleurs. Et quand on voit la prestation là face au Gabon, c'est un peu inquiétant.
On espère qu'ils vont pas effectivement subir des rencontres comme celle-ci face aux Gabonais. Kenya, Rwanda, 1-1. Éthiopie, Burundi à suivre le 12 avril. On vous donnera le résultat dans Africa numéro 1, dans Tout Feu Tout Foot. Guinée-Bissau, 1-0 pour la Guinée-Bissau. Très bon résultat face à la Sierra Leone. Et samedi a eu lieu Botswana, Namibie, Seychelles, Mozambique 0-0, 0-0, Malawi, Swaziland 0-0. Ouganda 5, Soudan du Sud 1, Tanzanie, RD Congo. La Tanzanie qui tient en échec la RD Congo 0-0. Mauritanie, Maroc qui s'impose face au Lionceau de l'Atlas 2-0. Belle victoire de la Mauritanie. Et l'Algérie qui s'impose face à la Tunisie 3-1. Eh bien, on va se retrouver juste après une page commerciale pour la suite de cette première partie. C'est les championnats africains sur Africa numéro 1.
Les différents championnats africains sur Africa numéro 1.
Hakim Djelouat pour vous accompagner avec Willy Dorkenou, Christian Changois, la réalisation Hélène Bizio. Bon retour hein, sur Africa numéro 1. Et dans Tout Feu Tout Foot en ce lundi 2 avril 2018, nous sommes en direct live. On ne chôme pas en ce lundi 2 avril férié. Bienvenue à vous si vous venez d'arriver. On a abordé bien dans cette première partie d'émission les championnats africains avec les résultats du premier tour aller des éliminatoires de la CAN des moins de 20 ans qui se poursuivaient dimanche. Le Gabon qui a cartonné le Togo 4-0, tandis que le Rwanda a arraché le nul au Kenya partout, avec une belle victoire aussi de la Mauritanie face au Maroc 2-0. On le rappelle brièvement hein, les scores. Ouganda, Soudan du Sud, l'Ouganda qui s'est imposé 5-1 et l'Algérie qui s'impose aussi face à la Tunisie 3-1. Voici les résultats. C'était les résultats du premier tour aller des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. Dans Tout Feu Tout Foot, on va s'intéresser cette fois-ci aux arbitres africains. On les connaît pour le Mondial 2018. On en a parlé tout à l'heure en préambule, en sommaire de cette, de cette édition. Nous connaissons les arbitres officiels pour l'ensemble de la Coupe du Monde. On connaît tous les arbitres qui ont été sélectionnés et qui pourront occuper diverses fonctions. Les six arbitres africains, c'est Abid Sharef Mehdi d'Algérie, Diédou Malang du Sénégal, Gassama Bakary Papa de la Gambie, on le connaît bien, Grisha Gehad, l'Égyptien, lui aussi on le connaît bien, Sika Zoué Djani de la Zambie et un Éthiopien, Tessema Weiza Balmlak. Les 10 arbitres assistants africains sont Achik Redouane du Maroc, Ahmed Walid du Soudan, Jean-Claude Birou Machachou du Burundi, Camara Djibril du Sénégal, Dos Santos Gerson Emiliano de l'Angola, Etchiakli Abdelak algérien, Mlia Anouar de la Tunisie, Ranje Marwa du Kenya, Samba Eladji Malik Sénégal, Siwela Zakele Toussi Afrique du Sud. Ça fait au total 16 arbitres, messieurs, sur le plateau. Une commission donc d'arbitres de la FIFA qui a nommé au total 36 arbitres et 63 arbitres assistants, dont on le rappelle 16 arbitres africains avec 6 arbitres officiels.
Une bonne chose, écoutez, c'est que il faut des arbitres de tous les continents. Après, il faut que c'est des gens compétents qui sont nommés. On se rappelle que la dernière compétition, il n'y avait pas eu d'arbitre français. Là, il y a donc là pour cette compétition, c'est qu'il n'y a aucun arbitre britannique. Il faut le souligner. Aucun arbitre britannique a été.
Coutume de dire, confirmé. Christian, souvent peu de pays représentés effectivement parmi les sélections, parmi les nations lors de la Coupe du Monde, mais les arbitres africains sont plutôt bien représentés.
Oui, ils sont bien représentés. Surtout, on parle souvent des méfaits des arbitres africains qui ont du mal à se faire respecter ou qui ont du mal à faire respecter leur autorité dans le football. Et voilà, sur cette compétition, des arbitres compétents sont nommés. On voit que la dernière fois, il y avait l'arbitre ghanéen qui a été suspendu à vie. Bon, bah voilà, pour un arbitre comme ça, il y a beaucoup de bons arbitres qui font du bon boulot. Et c'est une bonne chose que ces gens-là soient nommés. Après, maintenant, à eux de pouvoir exercer, de faire leurs preuves quand ils seront au coup de sifflet pendant la compétition.
D'ici au coup d'envoi de l'épreuve en juin, les arbitres assistants et arbitres assistants vidéo seront suivis et soutenus individuellement par le département de l'arbitrage de la FIFA afin d'assurer une préparation optimale. C'est bon pour le football africain, avoir 16 arbitres, Woody Dorkenou, dont 6 arbitres africains officiels. Et comme l'a dit Christian, c'est une bonne chose pour le continent.
Oui, c'est une bonne chose. Et on les a appris simplement parce qu'ils sont compétents. Parce que j'en ai vu lors du mondial, de la Coupe du Monde 2014 au Brésil, il y avait un Ivoirien qui était excellent. Je répète, il était excellent. Donc les arbitres, les gens parlent beaucoup pendant la CAN. L'autre CAN, on a vu les arbitres, ils étaient à un niveau très très élevé. Donc ils sont compétents, ils sont là.
Ouais, ils sont compétents. On le rappelle, la commission des arbitres a dévoilé les noms des arbitres qui officieront en qualité d'arbitre assistant, arbitre officiel. On aura aussi à l'issue de cette commission des arbitres l'officialisation des arbitres assistants vidéo pour le continent africain. Les préparatifs ont débuté pour cette commission des arbitres de la FIFA en septembre 2014. C'est un travail de longue haleine, Christian. On a eu 32 équipes participantes, mais aussi pour les 53 trios d'arbitres FIFA du monde entier présélectionnés. Le choix n'a pas été aussi simple que cela.
Bien sûr, Hakim. Après, là aussi, une fois encore, c'est l'élite qui est sélectionnée et seuls les meilleurs participent. Hein. C'est comme pour les sélections qui se qualifient au mondial. Mais voilà, il y a une sorte de tour de cadrage, on va dire. On analyse un peu tous les matchs qui ont été faits, qui ont été arbitrés, tous les coups de sifflet, les prises de décision, ceux qui sont capables de gérer aussi la pression, puisque un événement comme la Coupe du Monde, il faut avoir les reins et les nerfs solides pour pouvoir arbitrer ça, puisque c'est là, au-delà du football de club, là c'est le football de la nation, donc il y a tout un enjeu autour, tout un enjeu psychologique où les arbitres, il faut qu'ils soient bons dessus, et donc c'est normal qu'il y ait plein de tests réalisés avant et d'analyses faites en amont pour sélectionner la crème et les meilleurs.
C'est très rigoureux, la sélection est vraiment rigoureuse. On a vu, il faut une acuité visuelle, il faut être physique, il faut tout, donc ils sont compétents comme je l'ai dit. Mm-hmm. Donc on les a pas pris parce que l'Afrique devrait fournir des arbitres. Non, on a pris des compétents. Il y a des pays comme l'Angleterre, un grand pays de football,
qui n'ont pas d'arbitre au mondial. Donc, c'est dire.
C'est une question de compétence.
Vous dire, une des grandes nations
je
du
ne
football.
Vois pas pourquoi l'Afrique, un grand continent de football, ne doit pas avoir de bons arbitres.
Alors on va demander l'avis de Marco Momo avant de le libérer, puisqu'il a également du pain sur la planche, du travail, donc du côté de la RD Congo. Marco Momo, 16 arbitres africains, dont 10 arbitres assistants et 6 arbitres officiels, on le rappelle. C'est important pour le continent africain quand on sait que, comme l'a dit Christian tout à l'heure, on n'a pas d'arbitre du côté de représentants, donc l'Angleterre.
Oui, c'est très important aujourd'hui si on peut avoir des arbitres africains en grand nombre, 6 d'ailleurs, alors que l'Angleterre, un grand pays de football où on connaît très bien les niveaux du championnat, n'en a pas. Donc ça veut dire que l'Afrique, d'une part, a fourni des grands efforts, et aussi la Confédération africaine de football, en revalorisant aussi la prime des arbitres pour le match, puisque depuis un certain temps, on assiste à des arbitres qui sont très sérieux, qui ne gâchent pas des rencontres comme ce fut le cas. Il n'y a pas assez de protestations au terme de match. J'en ai eu au moins une protestation, c'était, je pense, lors du match d'une équipe sénégalaise où il y avait un arbitre congolais, Jean-Jacques Ndala, qui revenait justement du Chan, où on a protesté un penalty, mais dans l'ensemble, quand vous remarquez les compétitions interclubs de la CAF ou encore les compétitions nationales, ou que ce soit les éliminatoires, il n'y a pas assez de protestations par rapport au niveau d'arbitrage. Et aussi, vous savez qu'ici, chez nous, en Afrique, on n'a pas les goals online technologie. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de contestations par rapport au but qui a franchi la ligne ou qui n'a pas franchi, au penalty accordé. D'une part, il y a eu un effort et aussi une conscience prise par ces corps arbitrales. Je suis en train de voir que la FIFA ne s'est pas trompée en choisissant quand même 6 arbitres et 16 assistants, contrairement à l'Angleterre qui ne va envoyer aucun arbitre. Ça veut dire que l'Afrique a fourni beaucoup d'efforts.
Ouais, l'Afrique a fourni beaucoup d'efforts. Merci Marco Momo d'avoir été avec nous sur cette première partie d'émission dans Tout Feu Tout Foot sur Africa numéro 1. On vous dit à très très vite sur la radio africaine et le salut également à tous les confrères journalistes du côté de la République démocratique du Congo.
Je vous remercie Hakim.
À très bientôt. On va donner peut-être la parole à Salim. Salim, pour justement nous donner son avis sur ces arbitres africains qui vont officier lors de la Coupe du Monde de football FIFA 2018 en Russie. On la rappelle, au cours des 3 années écoulées, des séminaires préparatoires ont été organisés pour les arbitres officiels, les arbitres assistants, candidats, sur des thèmes aussi divers que variés, comme le fair play, la protection des joueurs, l'image du football, la cohérence, l'uniformité des décisions, la lecture technico-tactique du jeu et la compréhension des différentes mentalités des joueurs et des équipes. Que pensez-vous, Salim? Est-ce que c'est une bonne chose pour le football africain qui est 16 arbitres représentant le continent?
Déjà, bonsoir à Kim et bonsoir à toute l'équipe. Bonsoir.
Salut Salim.
Salut à tous les auditeurs. Concernant le nombre d'arbitres présents en Russie 2018 pour l'Afrique, déjà c'est très bien, mais faut souligner aussi qu'il y a eu un nettoyage fait par la Confédération africaine de football là sur ces dernières années, notamment après le match Tunisie-Guinée équatoriale de la CAN 2015. Issa Hayatou à l'époque avait fait en sorte, il avait en gros pris le taureau par les cornes et il avait dit que ça devait plus arriver ce qui s'était passé en Guinée équatoriale. Donc pour la première fois on a eu un arbitre exclu de la CAN, ce qui était une première dans l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations. Il a été très regardant aussi au niveau des compétitions interclubs, c'est-à-dire au niveau de la Champions League et de la Confédération. Gros ménage de fait, maintenant l'arbitrage a progressé, comme quoi quand on veut, on peut. Et aujourd'hui, on a eu une CAN 2017 qui était parfaite. Donc, par conséquent, les arbitres qui seront au Mondial, j'ai une énorme confiance en eux. Moi, je sais que l'arbitrage africain, quand on s'en occupe, il n'a rien à envier aux autres continents. Juste, il faut s'en occuper, c'est tout. Parce qu'en Amérique, c'était la même chose.
Exact.
En Amérique, ils ont pris le taureau par les cornes aussi et ils ont fait leur ménage.
Ils ont fait un ménage monstre.
En Asie, c'est pareil. en Asie, il y avait eu des polémiques autour de certains arbitres japonais. Notamment, il y avait eu une polémique d'un match éliminatoire à la Coupe du Monde où il y avait un Japonais qui avait annulé un pénalty au lieu de le faire retirer parce que des joueurs étaient rentrés dans la surface de réparation et ils ont vu que c'était une faute grave pour les éliminatoires de Coupe du Monde parce que c'est une grande responsabilité d'arbitrer des éliminatoires de Coupe du Monde. Donc, ils ont fait leur ménage et l'arbitrage asiatique a progressé. Le nôtre aussi, et c'est très bien comme ça. Donc, j'espère qu'à la Coupe du Monde, ils brilleront.
On rappelle, un autre séminaire aura lieu du côté de Coverciano, du côté de l'Italie, au centre technique de la Fédération Italienne de Football, pour tous les autres arbitres officiellement désignés, y compris ceux du continent africain et de tous les continents, tous les autres continents. Pendant 2 semaines, fin avril, ceux-ci seront répartis en 2 groupes qui incluront également les candidats à la fonction d'arbitre assistant vidéo, puisque la vidéo fait son apparition dans cette Coupe du Monde. C'est officiel. Par la suite, la commission des arbitres dévoilera les noms des arbitres qui officieront en qualité d'arbitre assistant vidéo. Et on aura, d'ici là, d'ici l'épreuve, tout simplement quelques jours avant le coup d'envoi de la compétition. On aura également un atelier spécifique sur l'assistance vidéo à l'arbitrage pour que tous les arbitres, y compris les arbitres centraux, les arbitres assistants et les arbitres assistants vidéo soient mis au parfum et soient formés.
Oui, mais on va former qui, la vidéo ou les arbitres? Parce que moi, je ne comprends pas votre truc de vidéo. Là, vous ramenez ça encore. On a vu ça à la Coupe de la
Ligue. On sait que vous n'êtes pas un fervent partisan.
Je suis contre parce que, regardez, j'ai vu la Coupe de la Ligue. Après, j'ai vu un match du championnat portugais entre Braga et Sporting. On fait une faute 5 ans avant. Donc, on a marqué un but. Après, on vient revenir sur la faute qu'on avait faite. Non, mais c'est sérieux. Votre truc de vidéo, là, mettez ça hors jeu dès maintenant parce qu'on risque de voir une Coupe du Monde assez... Vraiment, je ne sais pas comment qualifier la Coupe du Monde qu'on va avoir avec votre vidéo, là. Vraiment.
Je comprends ton scepticisme, Dorian. Moi, je suis pour une aide de la vidéo, mais il faut vraiment faut que ce soit réglé comme du papier à lettre. Il faut vraiment que ce soit... Faut que ce soit au point. Et le problème, c'est que on l'a vu encore ce week-end. C'est pas au point.
Est-ce que tu as vu le match de Braga?
Bien sûr. Donc c'est pour ça que ça va être compliqué.
Effectivement, d'en reparler, messieurs. En tout cas, c'est une bonne chose pour les arbitres africains qui participeront à la Coupe du Monde de football en Russie 2018. 6 arbitres au total africains officiels. 10 arbitres assistants et les arbitres vidéo, assistants vidéo également, qui pourront prendre part à cette belle épreuve de spectacle, de football et de jeu. Ça sera en juin prochain du côté de la Russie en 2018 et ça sera aussi sur Africa numéro 1. On va passer tout de suite, messieurs, à une nouvelle étape. On va voyager du côté de l'Europe, on va prendre notre petit bateau et s'installer du côté de l'Espagne.
La Liga espagnole sur Africa numéro 1.
Hola, Adama Sourabié.
Buenas noches, Hakim. Bienvenido a la mejor Liga del mundo. Bonsoir, Odoyen Willy.
Bonsoir, mon frère.
Christian. Bonsoir, Hélène.
Hola, hermano.
Bonsoir à toutes les auditrices et auditeurs de cette grande radio continentale. Et bonsoir au coach Lamine de l'autre côté du continent. Et bonsoir à Salim.
Merci Adama Sourabié pour ce petit tour de table et on fait un coucou également bien sûr à tous les auditeurs, toutes les auditrices, et on fait aussi un coucou à tous ceux qui sont dans un lit d'hôpital et qui nous écoutent depuis leur lit d'hôpital ou qui sont malades depuis chez eux. On pense à vous aussi sur Africa numéro 1 dans Tout Feu Tout Foot. Le football plaisir, le football international, et là c'est le football européen, puisqu'il s'est passé des choses du côté de la Liga. Adama Sourabié, racontez-nous un petit peu en résumé les résultats, peut-être avant avec Christian Chango, et ensuite on passe tout de suite à votre analyse de départ. Adama Sourabié,
je vais donner les résultats donc de la 30e journée de la Liga Santander. Gijón Levante 1 but partout, Athletic Bilbao face au Celta 1 but partout, Las Palmas Real Madrid, victoire du Real Madrid 3-0, Séville face au Barça 2-0, l'Espagnol Barcelone face à Alaves 0-0, Leganés Metz-Valence, 1-0 pour Valence. Match nul 0-0 entre Eibar et la Sociedad. 1-0 victoire de Malaga face à Villarreal. L'Atlético Madrid victorieux 1-0 face au Deport. Et actuellement, il est en train de se jouer Getafe face au Betis. Et 0-0. Et au niveau du classement, bien sûr, ça n'a pas changé. Le Barça, toujours premier avec 76 points. L'Atlético Madrid, deuxième, 67 points. Real, troisième, 63 points. Valence, quatrième. Villarreal, cinquième. Séville, sixième. Et en bas du classement, Las Palmas, le Deportivo La Coruña et Malaga qui ferment la marche.
FC Séville qui tient en échec le FC Barcelone à domicile avant une rencontre intéressante, historique peut-être pour le FC Séville. Est-ce que c'est de bon augure pour le FC Séville, cette belle rencontre en Liga avant ce match européen, Adama Sorabier?
Oui, Hakim, c'est pas le FC Séville qui tient en échec le Barça, c'est le Barça qui tient en échec le FC Séville, parce que rappelons que Séville est une équipe intraitable, et c'est une équipe difficile à jouer sur ses bases. Si vous avez vu, cette équipe n'est pas là par hasard.
Oui.
À ce niveau de l'Europe, ils vont jouer le Bayern de Munich en Champions League, nous allons en parler bientôt. Et toute équipe de la Liga, qu'elle soit le Real de Madrid, l'Atlético de Madrid, le Football Club de Barcelone, il est très difficile d'aller jouer
au Pizjuan
sur ses bases. Et donc, je peux vous dire que ce match nul arraché par le Barça est vraiment in extremis, parce que personne ne voyait le Barça repartir avec un point. Mais quand on a un génie comme Lionel Messi dans sa troupe, qui venait de rentrer et qui a su galvaniser cette équipe du Barça qui était absente totalement durant les 90 minutes du jeu, quand on voit le score, on dit 2-2, on a l'impression que le Barça était dans le coup. Non, le FC Séville a pratiqué un beau football.
Ouais.
Le FC Séville a dominé le Barça. Le FC Séville devrait empocher les 3 points. Mais le doyen ne me dira pas le contraire. Et Lionel Messi, qui a fait la différence à la fin du temps réglementaire. Et les deux équipes se sont séparées 2-2, 2-2. Et donc, oui.
Oui, Adama Sorabier sur la rencontre avec le Real Madrid.
Oui, et du côté de Las Palmas, vous savez que les déplacements des équipes de l'Espagne du côté de Lille, c'est un calvaire. Mm-hmm. C'est un calvaire, il faut 3 heures de vol. Sinon, souvent, 3h30 de vol. Et donc, c'est très difficile pour les équipes d'aller arracher 3 points à Las Palmas. Ben, le Real de Madrid a une fois démontré avec Zidane que cette équipe est en train de revenir petit à petit et dans le coup, mais le championnat est déjà plié. Le championnat est plié et aujourd'hui, et le Real essaie de coller à la 3e place qui est talonnée par le CF Valencia derrière. Donc, il y a un point de différence. Donc, le Real est allé sans Cristiano Ronaldo qui était mis
laissé au repos.
Voilà, a réussi à revenir avec les 3 points, surtout avec la manière. Mmh. Avec la manière, on a vu un Gareth Bale encore très déterminant, un Karim Benzema toujours à la richesse de ses repères, mais qui n'est pas toujours le Benzema que nous avons connu. Mais j'ai foi que Benzema, vers la fin de cette saison, a apporté beaucoup à la Casablanca. Mmh.
Woody Dorconou, Christian Chango, justement, votre avis sur cette Liga folle Liga, fin de Liga intéressante avec ce FC Séville, 2-2 face à Barcelone.
Oui, le match de Séville, moi j'ai eu l'impression que c'est Séville qui n'avait pas envie de gagner ce match, parce qu'ils avaient le temps de mettre 4-0 au Barça et le tour est joué. Mais le problème qu'ils opposent, je ne sais pas, ils étaient là, ils raquetaient beaucoup de buts. Et aussi, il faut féliciter Suarez aussi, parce qu'on parle de Messi, mais Suarez n'a jamais abandonné dans
ce
match.
C'est lui qui fait la réduction du score.
C'est lui, on a vu comment il a fait. Donc c'est vraiment c'est ça les grandes équipes, c'est qu'ils abandonnent jamais. Donc par rapport à Séville, on a vu que le Barça voulait revenir dans le match, ils ont fait et ça fait 2-2. Donc bravo pour le Barça, et Séville n'avait pas envie de gagner ce match. Mais concernant le Real, bravo au Real, quand c'est un match et de Benzema. Ouais. On peut tout dire sur Benzema. N'importe qui ne fait pas qu'à sa match au Real.
En numéro 9 en plus. Hein.
N'importe en qui 9, ne fait. Positionné en 9 par Zinedine Zidane.
Ceux qui ont fait qu'à sa match avec le Real, et on peut les compter, c'est des grands joueurs. Donc Benzema est un grand joueur parce que pour moi, c'est un grand joueur. Il restera un grand joueur.
On rappelle 2 tirs cadrés pour Benzema, Christian Chango.
Oui, pour Karim, bah, juste pour parler du match du Real, victoire, Zinedine Zidane a bien joué le coup, il a fait tourner l'équipe parce qu'on sait que demain ils ont un gros match du côté de Turin, donc le résultat est positif et oui, il m'a devancé, hein, mais par rapport à Karim Benzema, 400e match, il a joué avec le brassard, Adama l'a précisé, hein, il est toujours en recherche de son meilleur niveau, mais voilà, 400e match,
Moi, je pense qu'il va revenir, Christian. Je crois qu'il va revenir d'ici la fin de la saison. Il va être un élément incontournable pour le Real.
Exact. Exact. Et puis, on le voit. Et c'est ce que j'aime beaucoup chez Cristiano Ronaldo. Il le dit très souvent. Il dit, moi, je brille. Mais il dit, si je brille autant du côté du Real, c'est en particulier grâce à mes coéquipiers et surtout à l'attaquant français qui ne joue pas pour l'équipe de France parce que c'est lui qui le fait briller quand il y avait Ozil aussi à l'époque, mais voilà, Cristiano Ronaldo souligne souvent l'apport de Karim Benzema. On en avait parlé la dernière fois quand il se faisait siffler et qu'il avait dit non, c'est pas moi, c'est lui que vous devez encourager, que vous devez féliciter. Donc voilà, bravo pour Benzema.
Il y a un état d'esprit qui est plutôt serein, qui est plutôt sain du
mais
côté
c'est un joueur parce que les gens pensent que un attaquant, il est là que pour marquer des buts, il est là pour jouer aussi. Donc Benzema, c'est un grand joueur. Pourquoi? Parce que c'est un attaquant. Quand son équipe est dominée, il sert son équipe, c'est-à-dire qu'il il devient numéro 10. Et il y a très peu d'attaquants qui peuvent faire ça. Donc moi, j'ai dit à quelqu'un qui me disait que Benzema n'est pas bon, il n'est pas bon chez les Bleus, je lui ai dit simplement d'aller poser la question à Cristiano Ronaldo, il va lui reprendre s'il est bon ou pas.
Et puis de toute façon, après, pour terminer sur le Real, quand vous avez un joueur qui met plus de 60 buts par saison, vous pouvez vous permettre de mettre un peu moins de buts et de donner des passes décisives. Et dans le cas de Karim Benzema, qui est un joueur de football avant d'être un attaquant qui se déplace, c'est.
On rappelle,
c'est
dans le top 10 des buteurs en Ligue des Champions, 53 buts pour le moment. Oh. Il devance
53 buts en 100 matchs.
Thierry Henry, c'est une belle statistique.
En plus, il sait jouer au football. C'est un plus. Mais les gens ne voient pas ça. C'est qu'il ne marque pas de buts. Ça ne veut rien dire.
Mais Adama Sorabieu.
Oui, doyen Willy Hakim. Je pense que du côté de la France, les gens, qu'on le veut ou pas, qu'on l'aime ou pas, Benzema n'est pas un buteur attitré. Benzema,
c'est pas Trezeguet,
un véritable attaquant, un organisateur, un déstabilisateur des défenses. Si Benzema est en forme, Cristiano Ronaldo est en forme. Si Benzema est en baisse de forme, Cristiano Ronaldo est en baisse de forme. Aujourd'hui, quoi qu'on dise, aujourd'hui, quand vous regardez les matchs du Real, si le Real brille, c'est que Benzema a quelque part en forme. Donc, quand on le veut ou pas, Benzema reste un très grand joueur du côté de chez nous en Espagne.
On va écouter brièvement ses paroles aux auditeurs aussi. Donc, Abdouchou qui est avec nous sur la Liga. Il souhaite intervenir sur la Liga et sur ses rencontres folles avant la Ligue des Champions européenne. Abdouchou, bonsoir.
Oui, bonsoir. Vous allez bien, l'équipe ?
Bonsoir.
Salut, Abdou.
Alors,
ça se bat ?
Ouais, tranquille. Et toi ?
Oui, ça va, tranquillement. Ouais, ça va.
Alors, c'est quoi qui vous fait téléphoner, Abdouchou, concernant cette Liga intéressante, hein, avec, on le rappelle, cette belle victoire du Real face à Las Palmas et ce match nul entre le FC Séville et Barcelone ?
Tout d'abord, la Liga, moi, je pense qu'il n'y a plus de suspense. Je pense que Barça va finir champion. Déjà, ils ont plus de 15 points d'avance sur le deuxième. Et ça permet, même si ils font un nombre de matchs à faux pas, je vois le Barça vraiment devant. Après, le Real, ils sont en train de se faire rattraper leur retard. C'est-à-dire, ils ont gagné là leur match. Là. Pas facilement, mais bon, on peut dire que c'était pas si évident. Et aussi, vous avez FC Séville, c'est une très bonne équipe. Hein. Ouais. Ça fait plus de 3-4 ans qu'ils ont vraiment du beau jeu.
Ils ont éliminé le Manchester, le grand Manchester United en Champions League.
Ils ont éliminé le grand Manchester de Ferguson. Bon, même si Ferguson, attention, il n'est plus là. Ferguson, c'est l'histoire du Manchester United. Quoi. C'est un monument. Et pour dire que le football espagnol, en globalité, ça se passe plutôt pas mal.
C'est un beau championnat. C'est un beau championnat, effectivement.
C'est un beau championnat. Et je voulais parler aussi de l'arbitre africain.
Les arbitres africains, oui.
Oui.
Monsieur Gassara.
C'est une super bonne chose.
C'est une bonne chose pour le football africain. Effectivement, c'était la dernière thématique des championnats africains. Et de la première grande partie de cette émission, vous exprimez...
Sénégalais dedans, ça.
Ouais. C'est une bonne chose pour vous.
Oui, c'est une super bonne chose. Et en fait, aussi, ça donne confiance aux Africains... d'espérer, pourquoi pas, même peut-être gagner la Coupe ou avoir plus confiance, quoi, même au sein du continent.
Ouais.
Et il faut dire que le continent, l'Afrique, c'est le continent du football. Hein.
C'est le continent du football et c'est le continent du possible. Et on est ensemble, Abdouchou. Merci d'avoir appelé sur Africa numéro 1 dans Tout Foot. N'hésitez pas à faire comme Abdouchou, à nous contacter au 01 55 07 58. 0-0, c'est la deuxième partie de cette émission avec l'Europe. Et nous sommes du côté, nous avons posé notre bateau du côté de l'Espagne en Liga avec Adama Sorabie, notre correspondant et journaliste depuis l'Espagne. Adama Sorabie, vous voulez ajouter quelque chose? Ensuite, Christian Chango, par rapport à cette Liga, cette course folle, de même si on l'a dit, les carottes sont quasiment cuites, Adama. Pour le championnat.
Oui, on sait que le Barça sera la prochaine équipe sacrée de la Liga espagnole cette saison, mais rien ne sera lâché pour le Barça, parce que les équipes qui vont rencontrer le Barça aussi vont jouer crânement leur chance afin d'empocher les 3 points. Et c'est pour ça que je vous dis, la meilleure Liga del Mundo, si vous voyez l'avant-dernier virage de la Champions League, il y en a combien d'équipes?
On va en parler justement tout à l'heure, effectivement, et vous avez raison de le souligner.
Voilà, aujourd'hui, il n'y a pas de petites équipes. On ne voyage pas en se disant qu'on va en tourisme. On ne va pas pour récolter ces 3 points. Non, on va se battre. Et cette Liga, je vous assure, jusqu'à la 38e journée, c'est des matchs très plaisants à suivre.
Ouais.
Et donc, la semaine prochaine, la prochaine journée, on aura un certain Real de Madrid contre l'Atlético de Madrid.
Et donc, ça va être du lourd, parce que l'Atlético, deuxième pour le moment. Hein.
Oui, et le Real, troisième.
Ouais.
Et donc, vous voyez que rien ne sera lâché. Même le Barça, qui se voit tout beau aujourd'hui, qui se voit le titre en poche, même quand on demande aux joueurs du Barça, ils se disent non, c'est pas encore plié.
C'est pas encore plié, voilà. C'est pas encore terminé. Christian Chango, vous vouliez ajouter?
Oui, je voulais demander à Adama, par rapport à Lionel Messi, cette année au football, je parle en club avec le FC Barcelone, il semble encore plus fort que jamais. Bah là, il va avoir 31 ans cette année, si je ne me trompe pas. Et hier encore, quand il est rentré, et sur beaucoup de matchs du Barça cette année, je l'ai trouvé meilleur que toutes les autres saisons. On pensait que le départ de Neymar... ferait baisser le niveau de Barcelone et de Messi en particulier, mais on voit encore sur cette rencontre hier, il rentre avec l'apport de Suarez aussi, comme l'a dit Willy, qui est un guerrier devant. On a vu Messi, moi je le trouve plus fort que jamais cette saison. Je voulais te demander un peu ton ressenti et le point de vue du côté de l'Espagne.
Oui, cette saison, Lionel Messi a un seul objectif en tête au niveau du plan national, il veut tout gagner. Au niveau européen, il ne veut pas lâcher la Champions League. Et même quand on dit que la sélection argentine est mal en point, mais Lionel Messi n'a pas dit son dernier mot, parce qu'il vise aussi la Coupe du Monde. Je vous assure, ce garçon, il surprend de jour en jour. En fait, il a un âge, on parlait de la maturité, on parle de la fraîcheur d'un certain Lionel Messi qui est arrivé à tenir cette saison avec ses matchs difficiles, ça est vraiment blessé. C'est rien que la semaine dernière, il a eu quelques petits bobos. Mais, Lionel Messi, je crois que ces petits bobos qui ne l'a pas permis de jouer avec sa sélection, l'a permis de se reposer.
Adama Sorabie, on va revenir tout de suite sur cette analyse juste après une page commerciale.
La Liga espagnole sur Africa numéro 1.
Sur Africa numéro 1, Hakim Djellouat pour vous accompagner avec Willy Derkenou, Christian Changois, la réalisation de cette émission, Hélène Bizio. On va poursuivre sur cette analyse, Adama Sorabi, concernant justement votre point de vue par rapport à cette Liga et notamment tous ces faits qui nous font dire que cette Liga est peut-être la meilleure Liga del mundo selon Adama Sorabi.
Oui, et parlons de Lionel Messi, comme l'a souligné tout à l'heure Christian Chango, c'est vrai que Lionel Messi, c'est le Messi du Camp Nou. Voilà, tout simplement, ce qui s'est dit en Espagne aujourd'hui, es Kiko, es increíble.
Adama, et moi, ce que j'ai remarqué par rapport à Messi, c'est que c'est un joueur très intelligent, c'est-à-dire que à chaque fois qu'il est en dessous, il devient meneur de jeu. C'est le problème qu'il a au niveau de l'Argentine. Pourquoi ? Parce qu'en Argentine, on le met trop devant. On lui demande tout. Or, il n'est pas en retrait. Le jour où... Parce qu'il a, c'est un peu tard, je ne sais pas quoi. Ou bien il reste un peu 4 ans pour lui. Ou bien cette année ou dans 4 ans.
Mais il n'a même pas disputé la dernière rencontre, on le rappelle, avec l'Argentine. Hein.
Oui, mais ce n'est pas ça. Le problème qu'en Argentine, on le prend pour le Messi. C'est vrai qu'il s'appelle Messi. Mm-hmm. Mais... On veut qu'il sauve, on sauve et l'Argentine.
Non, il ne peut pas tout faire tout seul.
C'est impossible de faire tout seul en sélection.
Au Camp Nou, cette année, quand il est en méforme, il joue meneur de jeu.
Et il fait jouer les autres.
Exactement. Voilà, il fait jouer les autres. Il arrive à mettre ses coéquipiers dans les bonnes positions de scorer. Et aujourd'hui, quand vous suivez l'entraînement du Football Club de Barcelone, vous voyez un Lionel Messi, un numéro 10, qui se retrouve un milieu défensif, offensif.
Oui.
Donc, il arrive à orienter le jeu. Quand le Barça, suivez bien le match du Barça cette saison, c'est pour ça aussi que je salue le technicien Ernesto Valverde, qui a fait un travail vraiment remarquable.
Oui.
Messi se met en retrait, il arrive à capter, et c'est lui qui distribue les ballons à ses coéquipiers, et il les met dans des positions de scorer.
Oui. Mais
en même temps, il en a pu. Et comme il est très adroit, comme il est très intelligent, les autres, il fait le boulot pour eux. Eux, au dernier moment, ils reviennent vers lui et lui, il est libre. Voilà l'intelligence du jeu. Quand vous suivez un peu l'entraînement du Barça, il s'entraîne sur deux positions. Soit un numéro 10, soit un milieu offensif.
Ça se voit. Ça se voit dans son jeu.
Voilà.
Ouais.
Voilà. Et donc, je crois que cela aussi a été... Il faut saluer l'intelligence de l'entraîneur en ce moment. Tous les entraîneurs qui sont passés au Barça l'ont donné cette liberté de pouvoir se balader, se promener partout. Mais cette saison, il est devenu un passeur, il est en même temps buteur, mais il n'est pas égoïste. Messi, quand il peut scorer, il marque. Quand il ne peut pas, Suarez. Aujourd'hui, si vous avez vu Jordi Alba, qui est devenu un défenseur buteur.
Ouais.
Parce que la complicité, quand Neymar est parti, le trio des complices aujourd'hui, c'est Messi, Suarez et Jordi Alba. Voilà.
Ouais,
voilà le secret de cette équipe.
Le secret de cette équipe du FC Barcelone. On va parler peut-être aussi de Ligue des Champions. Brièvement, avant de reposer effectivement nos valises, Et nos stylos hein, du côté de la Ligue 1. On va s'intéresser peut-être à cette statistique intéressante, en tout cas à deux joueurs intéressants que sont CR7 et Wissam Ben Yedder. Cristiano Ronaldo et Wissam Ben Yedder, on le rappelle, 12 buts en C1 cette saison. Wissam Ben Yedder, c'est 8 pour l'ancien Toulousain. Ils ont l'occasion d'accroître leur avance, messieurs, au classement des buteurs de la Ligue des Champions, participant mardi au quart de finale de l'épreuve demain avec le Real Madrid et Séville. Les deux attaquants ont été ménagés ce week-end dans le championnat d'Espagne. On voudrait aussi avoir votre avis, Adama Sorabi, puisque vous suivez très très près ce championnat d'Espagne. Après une séquence internationale très contrastée, Portugais a inscrit un doublé en renversant l'Égypte in extremis 2-1 avant d'être impuissant face aux Pays-Bas 3-0. Tandis que le Français, traînant sa première sélection, n'a joué qu'un gros quart d'heure sans saveur. Revers 3-2 face à la Colombie, face aux Cafeteros. Et il n'est apparu En Russie,
il n'est pas rentré.
Il n'est même pas rentré. Ouais, il n'est pas apparu, pardon, en Russie. 3-1. CR7 tentera de percer la défense de la Juventus à Turin demain. L'une des plus hermétiques d'Europe, hein, on le rappelle. Tandis qu'en Andalousie, Wissam Ben Yedder, lui, voudra, contre le Bayern Munich, rester sur sa lancée d'Old Trafford, un doublé qui a éliminé Manchester United en huitième de finale retour. On en a parlé tout à l'heure. Robert Lewandowski, entré lors des huitièmes de finale dans le top 10 des meilleurs buteurs historiques de Ligue des Champions, n'est qu'à une longueur de Pippo Inzaghi. On le rappelle au classement. Classement des buteurs de la Ligue des Champions 2017-2018. 12 buts pour Cristiano Ronaldo, 8 buts pour Ben Yedder, FC Séville, Real Madrid, et 7 buts derrière Cavani, PSG, Kane de Tottenham, Roberto Firmino, Liverpool. Messieurs, pensez-vous que Cristiano ou de l'autre Wissam Ben Yedder peuvent accroître leur scoring donc lors de ces rencontres demain, à partir de demain?
C'est des buteurs, surtout Cristiano, parce que lui, il essaie de réagir à chaque fois que son équipe est dos au mur. Donc, c'est pour ça que Maradona a fait un commentaire qui gênait les gens. Moi, j'ai compris, parce qu'il faut comprendre ce qu'il voulait dire. C'est-à-dire que Ronaldo, lui, il va marquer quand son équipe a besoin de marquer des buts. Il n'est pas là. C'est un travailleur déjà, tout le monde le sait, mais il est... Et c'est comme dans la liste d'a cité un certain Cavani. Donc ses buts ne servent à rien, mais quand les buts de Ronaldo portent son équipe. Donc Ronaldo, quand son équipe est dos au but, on le voit toujours.
Et on le rappelle, hein, Christian Chango, meilleur buteur en Ligue des Champions depuis 92-93, tour préliminaire inclus. Cristiano Ronaldo pointe à la première place avec 117 réalisations. C'est simplement simplement impressionnant avec le Real Madrid. Derrière pointe Lionel Messi avec 100 réalisations pour le FC Barcelone. On a ensuite Raoul qui était avec Madrid aussi, 71 réalisations. Ruud van Nistelrooy, le joueur des Pays-Bas avec 56 réalisations. Et Karim Benzema qui pointe à la 5e place avec 53 buts avec le Real Madrid, bien sûr.
Mais tu vois, dans la liste des 5 joueurs que tu as donné, tu as 3 purs attaquants que sont Karim Benzema, Raoul et Van Nistelrooy. Et après, tu as les deux phénomènes que sont Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Donc eux, vraiment, ils sont à part. Mm-hmm. Et pour répondre à ta question initiale, Séville-Bayern Munich, donc c'est demain, et Juventus-Real Madrid. On a vu le Bayern ce week-end. Ils ont joué face à Dortmund. Ils en ont mis 6.
Ouais.
Ils en ont mis 6 à Dortmund.
Grosse artillerie. Hein.
Je sais que le Sanchez-Pizjuan, c'est une enceinte imprenable. Mais demain, il va y avoir une vraie opposition entre les deux équipes. Et il va falloir que Séville joue vraiment son va-tout. Mm-hmm. Parce que le Bayern, pour moi, est largement au-dessus de Manchester United.
Ouais.
Donc il va falloir vraiment que Séville élève son niveau de jeu. Après, c'est un quart de finale, tout est possible. Hein. Déjà, Séville, en Ligue des Champions, ils n'ont jamais été aussi loin. Donc tout est bon à prendre. J'espère que Wissam Ben Yedder, s'il est titulaire, pourra montrer sa valeur. Mais il y a quand même des sacrés clients en face au niveau de la défense. Boateng, Hummels, Alaba.
Être un match pour l'histoire, messieurs? Parce qu'on le rappelle, le FC Séville qui jouera mardi son premier quart de finale de Ligue des Champions depuis 1958 face au Bayern Munich est déjà entré dans l'histoire cette saison, bien évidemment. Mais est-ce que le FC Séville peut marquer l'histoire demain, Christian, Willy, Adama Souarbi?
Oui, ils peuvent, parce que c'est une équipe qui est habituée à jouer et des coupes. Donc, ils ont un esprit de coupe. Donc, cette équipe-là, en coupe, ils sont soudés. Donc, c'est ce qu'il faut voir. Donc, on le voit, Séville, personne ne connaît Séville. Mais à chaque fois qu'il y a une coupe, ils sont soudés. Donc, moi, je ne peux pas me prononcer.
Christian Chango.
Oui, Séville fera l'exploit, marquera l'histoire s'ils sortent le Bayern Munich. Sinon, pour moi, ils se sont qualifiés, c'est très bien. Mais maintenant qu'ils sont là, je pense qu'ils vont avoir les dents longues et ils vont essayer d'aller chercher la demi. Donc, ils marqueront l'histoire s'ils sortent le Bayern. Et après, Séville, il faut rappeler, c'est quand même un des plus grands tenants de l'Europa League, donc triple vainqueur, donc avec l'actuel et coach du PSG. Donc Séville, c'est vraiment une équipe à respecter, et on espère que demain
ils ont un esprit de coupe.
Esprit de compétition et de coupe selon Willy Dorquenot, et ils peuvent rentrer dans l'histoire, hein, selon Christian Chango, si ils battent, ils réussissent à battre le Bayern Munich de Ribéry, Robben, James Rodriguez, qui arrive en terre connue, hein, pas en terre inconnue, hein, Adama Sourabi. On le rappelle, il a estimé l'entraîneur du club du FC Séville, Vicenjo Montella, en disant vouloir viser encore plus haut. Est-ce que ces ambitions sont trop importantes ou peut-être un petit peu trop, peut-être un peu démesurées?
Oui, mais moi, Hakim, moi, je pourrais vous dire que Séville a atteint un niveau où elle ne pensait pas y arriver à la Champions League. Donc Séville, aujourd'hui, son bilan de sa participation à cette Champions League, elle est à 100%.
On rappelle, voilà, ils ont créé la surprise à Adama lors des huitièmes de finale, voilà, en éliminant, contre toute attente, messieurs sur le plateau, Manchester United, c'est important de le préciser, avec un match nul 0-0 à l'aller, puis une retentissante victoire 2-1 du côté de Old Trafford, Adama.
Voilà, et donc aujourd'hui cette équipe de Séville, pour vous dire, du côté de l'Espagne, quand nous avons vu lors des tirages au sort le Bayern contre le FC Séville, tout connaisseur de football, on voit le Bayern comme l'équipe favorite. Donc, le FC Séville ne joue pas avec une pression, hein, ne va pas jouer cette double confrontation avec une pression. Et Séville va comme un outsider.
Outsider, oui.
Et donc, voilà.
Vous avez raison de le dire, parce que depuis la reprise du championnat en janvier, les Bavarois, on va le rappeler à nos auditrices et nos auditeurs, ont joué 13 rencontres, 13 matchs, messieurs, et ont marqué à 7 reprises 4 buts ou plus, dont un 5-0 en Ligue des Champions contre le Beşiktaş, le club turc. À lui tout seul, l'avant-centre polonais Robert Lewandowski a réussi, lui, Christian, Willy, Adama Sourabié, deux triplés et un doublé lors de ses 5 dernières titularisations. Donc, est-ce que ces chiffres peuvent faire peur au FC Séville, Adama Sourabié, oui ou non?
Oui, moi, en connaissant l'équipe du FC Séville et en connaissant de loin le Bayern, moi, je vous dirais que sur le papier, je vois le Bayern être au-dessus du FC Séville. Mmh. Mais comme vous saviez, le football, c'est juste sur le gazon, sur le terrain. Mmh. Et donc, tout dépendra du match de demain à Séville.
Ouais.
Et donc, si Séville arrive à faire la différence, je pense que c'est une équipe qui est animée de l'esprit de coupe. Mmh. Comme l'a dit le doyen Willy en ce moment, c'est une équipe très soudée. Mmh. Mais si Séville rate son match contre le Bayern à domicile, eh ben, ça va être très difficile lors de la match retour du côté de Bayern.
On le rappelle, hein, l'attaque qui va jouer contre le FC Séville, il y a Lewandowski, on vient de le citer. Müller, Christian,
il y a les papiers joueurs de l'équipe
nationale. James Rodriguez, oui, l'ancien meneur du Real Madrid, qui a envie de faire bien du côté de l'Espagne.
Ribéry
qui a réussi à revenir, eh bien, notamment suite à la blessure du français, hein, on le rappelle. Kingsley Coman, qui s'est blessé à la cheville, messieurs.
Oui, mais tu fais la liste des joueurs
du Bayern.
De Bayern, mais si tu faisais la liste des joueurs du Manchester United, ça faisait peur à Séville en principe. Mais ils sont partis en Angleterre battre Manchester. Mais c'est incroyable. Qui pense qu'une équipe qui va à Manchester, quand tu les as vu jouer, tu sens qu'ils ont envie, ils avaient envie de battre Manchester. C'est ça qui m'effraie, parce que c'est une équipe qui se bat. C'est-à-dire que Séville, personne ne connaissait. C'est Séville en principe.
Oui, elle accroche cette équipe.
Ouais. Mais il va falloir qu'ils accrochent, hein, parce que franchement.
Christian, l'impression, elle est bonne. On a vu contre Dortmund, ils ont infligé un 6-0.
Voilà, moi, c'est ça, je vous le dis clairement. Là, le Bayern Munich, en plus, il y a Javi Martinez aussi, l'espagnol, qui joue un peu dans le même style que Busquets.
Exactement.
Je vous ai dit, franchement, l'équipe du. Le Séville va être une équipe accrocheuse. Chez eux, ils vont tout faire au Pizjuan. Ça va être. J'aimerais vraiment être demain à Séville pour voir ce match. Mm-hmm. Et ça va être une ambiance terrible. Mais franchement, le Bayern, c'est du très très lourd. Donc ça va être un beau match.
Christian, pronostic.
Christian, pronostic. Des favorites. Hein.
Bien sûr.
Christian, pronostic. On va l'enregistrer.
3-1 pour le Bayern.
3-1 pour le Bayern. Willy Dorquenou.
2-1 pour le Séville.
2-1 pour le Séville. Pour Willy. Adama Sourabié.
1-1 pour Bayern. 1 pour Séville.
un partout pour Adama Sorabia. Il ne se lâche jamais. Adama Sorabia, on l'aura un jour hein, ou l'autre pour une statistique qu'il lâchera en direct live de Tout Foot, Tout Foot, l'émission sportive de la radio africaine. Messieurs, on va passer rapidement du côté de la Ligue 1. On va poser nos valises du côté de la Ligue 1 avec vous, Christian Chango, Willy Dorkenou, et le jingle, bien évidemment, avant les résultats.
Les différents championnats africains sur Africa numéro 1.
Alors là, c'est pas les différents championnats normal. Africains. Il y a beaucoup c'est d'Africains. C'est la Ligue 1 qu'on.
Ouais, mais elle a raison. Il y a beaucoup d'Africains à Ligue 1.
C'est pas. Elle s'excuse, Hélène. Elle va.
Le championnat de France de Ligue 1 sur Africa numéro 1.
Elle est contente, elle a appuyé sur le bon maintenant. C'est bon, elle sourit et ça ramène un peu de bonne humeur à quelques minutes de la fin de cette émission. Sportive l'unique sur la radio africaine, c'est Tout Feu Tout Foot. Hakim Djelouad pour vous accompagner avec Willy Dorkenou, Christian Chango à la réalisation, Hélène au doigt, on va pas dire tordu, mais au doigt de fée qui nous a fait, qui nous a remis le jingle des championnats africains.
Arrête, elle est sympa.
On rappelle donc les résultats de la Ligue 1 avec vous, Christian Chango.
Oui, les résultats de la 31e journée. PSG Angers, c'était déjà joué puisqu'il y avait la finale de la Coupe de la Ligue hier, enfin ce week-end, donc PSG Angers 2 buts à 1. Victoire de Marseille face à Dijon 3 buts à 1. L'en avant-gain, quand on a parlé à Kim, de Antoine Combaré a battu Bordeaux 2 buts à 1. L'Estac, le 3, a perdu à domicile 2 buts à 0 face à Nice. 2 buts partout entre Strasbourg et Metz. Victoire de Montpellier à Caen, 3 buts à 1. Lille, encore perdu à domicile face à Amiens, 1 but à 0. Le FC Nantes en a pris 3 à domicile face à Saint-Etienne. Lyon-Toulouse, 2 buts à 0 pour Lyon. Et Monaco, donc Stade Rennais-Monaco, qui va se jouer demain, si je ne me trompe pas. Non, mercredi, pardon, puisqu'il y avait la finale de la Coupe de la Ligue entre Paris et Monaco. Et victoire de Paris, 3 buts à 0. Ouais. Et au classement, Paris toujours premier à 83 points. Monaco deuxième, 66 points. Marseille troisième, 62 points. Lyon quatrième, 60 points. Ensuite Montpellier, Rennes, Saint-Etienne est 9e. Bordeaux 12e. Amiens 15e. Et en bas du classement, 3, Lille et Metz.
Willy Dorkenou, Christian, Adama Sorabia, ce qui vous a le plus impressionné sur cette 31e journée de Ligue 1, on le rappelle bien sûr, hein, la victoire de Paris, important de le souligner, face à Monaco en Coupe de la Ligue. Willy, c'est effectivement un titre en plus pour les Parisiens.
Ouais.
C'est de bonne augure pour la suite.
Oui, tout le monde savait qu'ils allaient gagner, ils allaient tout gagner en France. Donc, on ne nous a pas vendu ça. Ce qu'on nous a vendu, c'est qu'ils vont gagner la Ligue des Champions. Donc, c'est clair. Donc, et Paris qui gagne, c'est pas une surprise. Donc j'ai vu un Monaco, quand on regarde le match, les Monégasques, techniquement, ils étaient limités. Donc quand voilà, on voit les deux, mais c'est clair, ils ne peuvent pas gagner ce match. Je ne sais pas pourquoi ils étaient limités techniquement. Donc,
c'est dommage parce qu'on avait un bon Falcao face à l'équipe.
Oui, mais Falcao, il est tout seul. En plus, on parle d'arbitrage, on parle de tout, mais quand on voit l'ensemble du match, et Paris mérite de gagner, et Monaco ne gagnera jamais ce match par rapport au niveau et technique individuelle des Monégasques.
Des Monégasques, ouais. Après son succès à Nantes, Saint-Etienne qui peut croire à l'Europe, Christian, Adama, Willy, c'est de bonne augure ça pour Saint-Etienne, pour les Verts qui peuvent encore arracher peut-être une place hein, pour l'Europe.
Oui, bon, mais les Verts, ils viennent de très loin.
Oui, très loin.
On les a vus mal menés hein, lors de la première partie de ce championnat.
Ouais.
Et cette équipe a fait un travail remarquable lors du mercato d'hiver. Ouais. Pour rebooster cette équipe et atteindre ce niveau, moi je dis chapeau aux deux présidents. Et voilà.
Chapeau de président. Christian, qu'est-ce qui vous a le plus marqué sur cette 31e journée de Ligue 1?
Sur cette 31e journée de Ligue 1, moi, ce qui m'a marqué, c'est le mano à mano qui continue entre Marseille et Lyon au niveau du classement. Les deux équipes se poursuivent. Hein. On voit que la lutte pour la 3e place est acharnée entre ces deux équipes.
Très beau match, hein, de Memphis Depay.
Oui, Memphis l'intermittent. Très beau match. C'est un joueur clivant. Parce que, il est capable de merveilles sur le terrain. et surtout qui met beaucoup de buts, qui rapporte de points à son équipe. Hein. Oui, Willy parlait tout à l'heure de Cavani en Ligue des Champions, qui met des buts contre les touristes. Là, pour Memphis Depay, dans le cadre du championnat, il met beaucoup de buts qui rapportent de points. Donc, belle prestation des Lyonnais. Mais moi, c'est surtout Marseille, hein, où je note encore une fois leur qualité, leur capacité mentale à chaque fois à s'en sortir, à suivre, à continuer. Et là, malheureusement pour Marseille, ils ont perdu Adil Rami et Steve Mandanda surtout.
Ouais. Adil Rami pour deux semaines.
Deux semaines et Mandanda entre 4 et 6 semaines. Sachant que là, c'est jeudi, dur, en Europa League, ils vont jouer contre Leipzig. Donc ça va être compliqué de perdre le capitaine phénoméno Mandanda. Mais vraiment, ce mano à mano entre Lyon et Marseille est plaisant et on va voir à la fin.
Est-ce qu'on pouvait s'y attendre, cette blessure de Mandanda qu'on n'avait pas vue depuis un moment?
Moi pour ma part, oui, on pouvait s'y attendre puisqu'il revenait de blessure et Mandanda, c'est un joueur imposant physiquement. Et est-ce que, comme pour tous les joueurs, quand ils reviennent de blessure, il y a toujours un risque de rechute. Ouais. Et quand vous reprenez, quand vous êtes en avance sur votre programme de remuscle, où on se remuscle sur le programme de reprise, quand on est en avance, des fois on rejoue trop tôt et malheureusement.
Il voulait peut-être faire bien aussi.
Oui, il voulait se préparer pour le match de jeudi d'Europa League. Ils sont en quart de finale. Il reste quelques équipes. Donc c'est dommage pour Marseille, pour Mandanda, puisque la Coupe du Monde approche aussi. Et il était en duel avec Lloris là sur les derniers matchs. Il était au moins au niveau de Lloris, voire au-dessus à titre personnel.
Il était au-dessus quand on voit les.
Tottenham Chelsea d'hier,
Maintenant, il a l'habitude de faire ce genre de choses. Donc, mais moi, je félicite beaucoup l'OM simplement parce que cette année, on ne mettait pas beaucoup de pièces sur l'équipe. Donc, et tout le monde rigolait que un projet. Mais à part le projet, ils ont une équipe. D'abord, ils ont un bon coach que j'aime beaucoup. Et ils sont courageux. C'est-à-dire que l'équipe joue en bloc, ensemble. Parce qu'aller faire 3-1 à Dijon, il faut le faire. Parce que Dijon, c'est une équipe assez dure à jouer.
Chez eux, c'est très
dure à jouer. Donc, bravo à Marseille. Moi, j'aimerais bien que cette équipe prenne la troisième place, simplement pour dire aux gens qui faisaient des commentaires assez désobligeants à leur encontre.
Ces détracteurs. Adama Sorabier, ce qui vous a le plus marqué dans cette 31e journée de Ligue 1? Et qu'est-ce qui se dit en Espagne du côté de la Ligue 1, justement, en parlant de ce championnat français?
Oui, depuis la blessure de phénoménal Neymar du côté du Paris Saint-Germain, qui est en ce moment chez lui au Brésil, la Ligue française n'a plus beaucoup d'attache du côté de l'Espagne.
Ouais.
L'intérêt que les Espagnols portaient vers cette Ligue 1,
il s'est effacé.
A beaucoup diminué, puisque aussi il y avait un certain duel entre le Real et Paris. Le Paris Saint-Germain. Ouais, ouais. Voilà, tout ça s'est passé. Donc aujourd'hui, quoi qu'on dise, la Ligue 1 n'a pas beaucoup d'importance aujourd'hui du côté de l'Espagne. Ce n'est pas beaucoup vu comme il y a un mois et demi de cela.
C'est effectivement le cas de le dire. On le rappelle, l'an avant, Guingamp a mis fin à 6 matchs de championnat sans victoire en s'imposant face à Bordeaux 2-1, qui lui n'a plus gagné depuis maintenant 2 mois, Christian.
Oui, l'an avant, Guingamp était dans une période compliquée ces derniers temps. Et puis c'est une période, c'était un match important, une victoire à aller chercher. Bordeaux, qui avait fait un très bon début de saison, eux, ça se complique. Hein, ils sont 12e là actuellement, mais après avoir aussi bien débuté, s'effondrer aussi lamentablement, c'est compliqué de la part d'un club comme Bordeaux, qui est un club qui doit prétendre aux 7 premières places. Hein, Bordeaux, en termes de budget, ils sont derrière Guingamp, mais ils doivent avoir le double, le triple du budget de Guingamp. Donc moi, je suis très, à titre personnel, je suis très déçu par les Girondins de Bordeaux, mais pour Guingamp, je suis content pour Antoine Comboiré, qui est un coach qui bataille, qui travaille depuis de nombreuses années dans le championnat de France, et qui, avec les moyens du bord du côté de Guingamp, arrive à faire de bonnes choses. Hein, puisqu'il faut rappeler, à Guingamp, il y a plus de supporters que d'habitants dans la ville.
Ouais, effectivement, et on le rappelle, hein, les supporters bretons nous écoutent aussi par l'intermédiaire d'un jeune journaliste africain qui est du côté de la Bretagne. On lui dit Kenavo.
Il est togolais.
Il est togolais.
Yao Bandera.
Yao Bandera, on lui fait un petit coucou s'il nous écoute. Et c'est toujours le bienvenu. Et d'ailleurs, il nous contacte de temps en temps dans Tout Feu Tout Foot. Faites comme lui au 01 55 07 58 00. On va rappeler juste le classement, Christian, de cette Ligue 1 avant de voyager du côté du nord, de la Manche. On va passer du côté de la Manche pour la première Ligue.
Paris, premier. Monaco, deuxième. Marseille, troisième. Lyon, quatrième. Montpellier, cinquième. Nantes est huitième. Saint-Etienne, neuvième. Et en bas du classement, les Stack 3, Lille et le FC Metz.
La première ligue anglaise sur Africa numéro 1.
Bah, il s'en est passé des choses du côté de l'Angleterre. Christian Chango avec cette 32e journée de Première Ligue. On va s'intéresser aux résultats d'abord.
Oui, Crystal Palace, Liverpool. Victoire de Liverpool 2 buts à 1. 2 buts partout entre Watford et Bournemouth. West Bromwich Albion, Burnley 2 buts à 1 pour Burnley. Victoire de West Ham 3 buts à 0 face à Southampton. Newcastle a battu Huddersfield Town 1 but à 0. Brighton a perdu 2-0 face à Leicester. United, Manchester United a battu Swansea 2 buts à 0. Everton a perdu à domicile 3 buts à 1 face à City avec un but de Bolasie qui revient et qui met un beau but pour Everton. Arsenal, Stoke City 3 buts à 0 avec un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang. Chelsea, Tottenham Hotspur 3 buts à 1 pour Tottenham. Manchester City premier avec 84 points. Manchester United deuxième 68 points. Liverpool troisième. Tottenham quatrième. Chelsea cinquième. Arsenal sixième. Leicester est huitième. Everton neuvième. Et en bas du classement, Southampton, Stoke City, West Bromwich Albion qui ferme la marche. Et au niveau du classement des buteurs, Mohamed Salah 29 buts, Harry Kane 24 buts, Aguero 21 buts.
Ah, c'était la première ligue. On va donner peut-être les affiches de cette Ligue des Champions, la C1 comme on l'appelle du côté de l'Europe. Avec des matchs impressionnants dès demain et que l'on analysera, que l'on resuivra, que l'on décortiquera la semaine prochaine dans Tout Feu Tout Foot sur Africa numéro 1.
Oui Kim, demain mardi 3 avril, Séville, Bayern Munich, Juventus, Real Madrid, un remake de la finale de l'an dernier. Et mercredi, Barcelone, AS Roma, Liverpool, Manchester City. Et jeudi en Europa League, deux affiches qu'on va donner. Atlético Madrid face au Sporting Portugal et Leipzig face à Marseille aussi. Donc il y a de belles affiches au niveau européen. Et encore une fois, on voit que le football espagnol est en place avec Séville, le Real Madrid, Barcelone et l'Atlético Madrid en Europa League. Donc quatre équipes parmi les mieux classées au niveau européen qui sont en quart de finale des deux compétitions.
Ouais, match à suivre. Liverpool-Manchester City, Christian Chango, Willy Dorkono, Adama Sorabié, votre pronostic, Willy Dorkono. On le rappelle, un match entre Salah et De Bruyne.
Ouais, moi j'ai avantage à Salah, hein, parce que lui,
on le voit. Avantage à Salah.
Oui, on le voit toujours.
Pour Willy Dorkono, Christian Chango. Ouais.
Mon cœur penche Liverpool, du côté Manchester rouge, City. Du côté des Reds, et je vois la doublette africaine Sadio Mané, Mohamed Salah poser des problèmes. Mais Manchester City, c'est du très très très
bon. Mercredi à suivre, Adama Sourabié, Liverpool, Manchester City, votre analyse.
Oui, moi je dirais Manchester City de Guardiola.
Manchester City de Guardiola, c'est noté. Messieurs, on a noté vos pronostics. On vous souhaite une excellente semaine de football sur Africa numéro 1. Et tout simplement toute cette semaine, on va se quitter avec la suite. Ça sera Fatou, tu vas où? Fatou Birama, bien évidemment, que l'on salue. Merci à la réalisation, Hélène Bizio. C'était Hakim Djelouat à la présentation avec Christian Chango et Willy Dorkenou. À la semaine prochaine. À très vite.
Tout feu, tout foot, l'émission 100% foot sur Africa numéro 1.